Alors, shalom à tous les amoureux de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, entamer une autre partie. Et cette partie sera consacrée à la mission. Alors, c'est quoi une mission? En fait, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir quelque chose ou d'accomplir une tâche. Alors, pour accomplir une mission définie, il s'agit de dire à la personne ce que la personne doit faire. Et ce que la personne doit être. D'abord, ce que la personne doit être. Ensuite, ce que la personne doit faire. Alors, rentrer dans une mission est capital de savoir préparer la personne par rapport à ce que la personne va croiser sur le terrain. Alors, parler de la mission, nous allons plus nous focaliser sur l'appel parce que celui qui envoie en mission ici, c'est Dieu. Et il est donc important de savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Voilà pourquoi, si nous sommes serviteurs de Dieu, il est important que nous puissions connaître le cœur de Dieu. C'est comme lorsque nous partons dans un restaurant. Si aujourd'hui nous étions en train de servir, par exemple, dans un restaurant, on ne présenterait pas n'importe quel plat au client qui arrive. On suppose que nous devons, en tant que serviteurs, présenter le plat selon le désir du client. Alors, c'est comme l'œuvre de Dieu. Pour servir Dieu, nous devons le faire selon le modèle de Dieu, selon le désir du cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de connaître le cœur de Dieu avant de rentrer dans la... Alors, par la grâce de Dieu, pendant notre balade ou encore notre pèlerinage par rapport à cette partie des enseignements concernant la mission, nous allons nous entraider ou nous édifier sur trois principaux thèmes. Nous verrons, premièrement, ce que Dieu fait dans le secret avant d'envoyer en mission. Deuxièmement, nous parlerons des trois appels d'Abraham. Et troisièmement, nous parlerons de quoi sommes-nous appelés sous la Nouvelle Alliance, parce que nous parlons de l'appel. Et nous allons ici comprendre par la grâce de Dieu ce à quoi nous sommes appelés sous la Nouvelle Alliance. Alors, très rapidement, nous allons prendre notre premier thème qui concerne ce que Dieu fait dans le secret avant d'envoyer en mission. Alors, prenez rapidement avec moi. J'aime beaucoup lire la parole, c'est-à-dire que lorsque je dis de prendre la Bible, c'est important que vous preniez aussi la Bible et que vous lisiez au même moment que nous sommes en train de lire. C'est très important. Parce qu'en lisant, bien aimé, cela reste en nous. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Alors notre prière est que lorsque vous allez écouter, que Dieu vous fasse grâce de telle sorte que vous receviez au-delà même de ce que nous allons présenter ici. Car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors voilà pourquoi c'est important que nous puissions écouter en étant poussés par l'Esprit de Dieu. J'aimerais aussi dire en introduisant que, bien aimé, il y aura certains détails que nous allons prendre peut-être le temps d'expliquer lorsque nous aurons un retour de votre part. C'est-à-dire, lorsque vous aurez un certain nombre de questions, nous irons en détail pour expliquer et en prenant d'autres exemples, parce que en présentant ici, il est pratiquement impossible que nous puissions bien aimer tout présenter, c'est-à-dire donner en détail, parce que dans la Bible, il y a plusieurs personnes ici qui sont le type même du Messie et encore bien aimé, qui nous révèlent ce qui nous concerne et comment nous devons bien aimer exercer sous la Nouvelle Alliance. En lisant les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a plusieurs exemples. Voilà pourquoi nous n'allons pas tout toucher, mais bien aimé dans le Seigneur, nous aimerions bien avoir des questions de votre part afin que nous puissions aller en profondeur. Alors, très rapidement, comme je disais, nous commençons aujourd'hui le premier thème, ce que Dieu fait dans le secret avant d'envoyer en mission. Notre passage de base est dans Marc chapitre 3. Et nous lirons du verset 13 au verset 15. Voici ce que la Bible dit. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Ensuite, le verset qui suit, on cite les noms des 12. Bien-aimés, nous voyons ici un principe très important. Lorsque Dieu appelle, nous voulons rappeler ici que c'est Dieu qui choisit. C'est très important de comprendre cela. On dit qu'il choisit ce qu'il voulut. Donc le choix ici ne dépendait pas des hommes qui disent que non, moi je suis choisi de Dieu, ou encore que c'est mon père qui me choisit, ou encore que c'est ma mère, ou encore que c'est mon mari ou ma femme qui me choisit. Mais bien aimé, ici le choix découlait de Dieu. C'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui appelle. Et l'appel de Dieu n'est pas fonction de notre nationalité, de notre couleur de peau, ni de nos capacités intellectuelles, mais Dieu choisit seulement, selon, bien aimé, ses principes, et il choisit ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Donc voilà pourquoi le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme. La Bible dit, il choisit ce qu'il voulut et il vint auprès de lui. J'aimerais encore reculer un peu pour voir ici la position de Jésus. Où était le Seigneur? La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne. Ah, c'est là le problème. Dieu nous choisit sur la terre, mais bien aimé, lorsqu'il nous appelle, il nous appelle sur la montagne. Pourquoi est-ce que Dieu doit nous appeler sur la montagne? Parce que, bien aimé, lorsque Dieu nous fait un appel, lorsque Dieu appelle un homme, Dieu doit d'abord, bien aimé, sélectionner cet homme et le mettre à part. C'est ce qu'on appelle le service ou le travail de sanctification. C'est très important. Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu si tu es un homme qui est centré sur tout ce qui est terrestre. En effet, lorsque Dieu nous appelle, Dieu doit nous dépouiller d'abord de tout ce qui est terrestre afin d'enfouir en nous ce qui est céleste. Parce que la mission ici, il s'agit, bien aimé, de transmettre le ciel. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus a été ressuscité, avant de monter au ciel, il a passé au moins 40 jours sur terre, leur enseignant les choses qui concernent le royaume des cieux. Et nous, bien aimés sur la terre, nous avons comme mission de faire continuer ce royaume. C'est-à-dire, nous faisons fonction d'ambassadeur, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que nous faisons fonction d'ambassadeur. Or, l'ambassadeur, il a pour travail, bien aimé, d'annoncer ou de représenter son pays. Donc, sur la terre, nous venons pour communiquer ce qui est céleste, pour montrer aux hommes quel est notre royaume, ce que fait notre royaume, ce que veut notre royaume, et préparer les gens pour entrer dans ce royaume-là. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand cet endroit-là sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le travail que fait le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il nous a envoyés sur la terre comme des messagers afin de montrer aux hommes ce qu'est notre royaume. Donc, en un mot, un missionnaire, c'est un ambassadeur. Il vient pour représenter son état, il vient pour révéler son état. Voilà pourquoi il doit d'abord comprendre ce qu'est son état. Voilà pourquoi ici, vous voyez, la Bible dit « étant monté ensuite sur la montagne », le fait de monter ici sur la montagne, c'est aller bien-aimé dans le ciel. Aller bien-aimé dans le lieu céleste. Donc, quand Dieu nous choisit sur la terre, il ne regarde pas notre vie passée. On pourrait être bien-aimé des violents. On pourrait être bien-aimé des débauchés, etc., des ivrognes. Peu importe ce que nous étions. Dieu nous appelle tel que nous sommes. Et il doit monter bien-aimé avec nous dans les cieux afin de nous transformer et nous communiquer sa pensée. Bien-aimé, c'est un principe très important. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas prêt. Non, frère. Si aujourd'hui l'Église souffre parce que les gens ont été formés par des hommes, voilà pourquoi, au lieu de communiquer les choses célestes, ils viennent encore sur terre communiquer les choses terrestres. Avec cet évangile qu'on parle, qu'on a donné le nom de l'évangile de la prospérité. Bien-aimés, les gens qui prêchent les choses terrestres. Non, nous sommes célestes. Nous sommes venus pour communiquer le ciel et non, bien-aimés, présenter encore les choses terrestres. Donc la Bible dit que Jésus étant monté sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Ah, pourquoi les appela? La Bible dit qu'il vint auprès de lui. Voilà un problème. Lorsque Dieu t'appelle, est-ce que vraiment tu viens auprès de lui? Parce que il y a une chose d'être appelé, mais c'en est une autre de venir à lui. Et avant de venir à lui, c'est encore une autre chose, bien-aimé, d'écouter son appel. Parce que, bien-aimé, Dieu peut t'appeler, mais est-ce que tu as écouté d'abord cet appel et ensuite, est-ce que tu as répondu présent à cet appel? Nous allons plus nous focaliser sur cette partie lorsque nous parlerons d'Abraham. Parce que Dieu, lorsqu'il appelle Abraham, il appelle Abraham deux fois. Abraham, Abraham. Donc, on suppose que la première fois, il n'a pas écouté. La deuxième fois, Abraham doit écouter l'appel. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il appela ceux qu'il voulut, la Bible dit, pour les avoir avec lui, ensuite pour les envoyer. Donc, Dieu doit d'abord faire de telle sorte que nous soyons avec lui. Et c'est lorsque nous sommes avec lui que Dieu bien-aimé dans le Seigneur, fait un travail. Et quel est le travail que Dieu fait lorsque Dieu nous appelle? Premièrement, c'est que Dieu nous change. Dieu transforme notre être intérieur. Dieu transforme, bien-aimé dans le Seigneur, notre capacité, notre façon de voir. Mais pour que ce travail-là se fasse, il faut, bien-aimé, accepter l'appel que Dieu nous fait. Voilà pourquoi, pour tout missionnaire, le premier appel que Dieu fait dans sa vie, c'est l'appel au retour vers Dieu, c'est-à-dire l'appel à la repentance. Sans l'appel à la repentance, il sera impossible de rentrer dans les choses de Dieu, c'est-à-dire il sera impossible de rentrer dans le domaine de Dieu. Un jour, Nicodème est parti voir Jésus de nuit en disant, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais quelle fut la réponse de Jésus? Jésus dit, je vois bien que tu es en train de te rapprocher du ciel, mais je te dis en vérité, si un homme ne naît d'eau, ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez, Jean chapitre 3, je vais d'abord lire le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Et ce processus-là, comment ça se fait? Et c'est un processus que Dieu fait dans le secret. Et comment Dieu fait, bien aimé, ce processus dans le secret? Le mystère de la nouvelle naissance. Comment, bien aimé, cela se fasse? Cela se passe. Prenons Romains chapitre 12. L'apôtre Paul nous parle de ça ici. Comment faire pour connaître le renouvellement de l'intelligence? Romains chapitre 12. Et nous allons prendre du premier verset jusqu'au deuxième verset. Bon, même le premier verset suffit. Romains 12. Regardez ce qui est écrit. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, lorsque Dieu nous appelle, ce que Dieu attend de nous, c'est une conversion et une repentance sincère. Nous devons nous repentir. Il est écrit que celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc lorsque Dieu nous appelle, nous venons à lui, il y a ce travail-là qui se fait. Le travail du changement. Et pour que ce travail-là se fasse, Dieu ne nous oblige pas. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. Donc, lorsque nous venons à lui, il nous appelle bien. Oui, nous venons à lui. Mais nous avons notre part de responsabilité. C'est quoi cette part? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous devons bien aimer prendre notre croix afin de le suivre. Si nous ne prenons pas notre croix, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes et nous ne prenons pas notre croix, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a ce travail de renoncer au moi, de renoncer, bien aimé, au péché, tout péché connu. Nous venons à lui, nous demandons pardon pour tous les péchés connus et pour tous les péchés que nous ne connaissons pas. Et nous prenons la décision de ne plus les commettre. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais bien aimés dans le Seigneur. Dieu va transformer notre cœur de telle sorte que nous n'aurons plus, bien aimé, le désir de commettre les mêmes péchés. C'est très important. Donc le travail que Dieu fait dans le Seigneur, c'est que Dieu change notre cœur. Il nous emmène à un niveau où, bien aimé, que nous atteignons cette disposition où nous dépendons totalement de lui. Il nous emmène à un niveau où, bien aimé, nous serons brisés. Oh, bien aimé, je me rappelle encore de Moïse. La Bible dit de Moïse dans Romains chapitre, dans Actes chapitre 7, c'est Étienne qui parle de lui, que Moïse était un homme qui était puissant en parole et en acte. Il avait 40 ans. Il connaissait sa mission. Il savait qu'un jour, Dieu devait l'utiliser pour le salut de ce peuple. Certainement, sa maman, lorsqu'il lui donnait le lait maternel, puisque on avait engagé sa maman pour lui donner le lait maternel quand la fille de Pharaon l'avait pris, certainement Moïse avait reçu des enseignements. Et Moïse connaissait sa mission. Il savait qu'il devait sauver ce peuple. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est qu'il n'était pas encore prêt. C'est une chose de connaître sa mission, mais c'en est une autre d'être prêt. Tu peux connaître ta mission. Oui, tu peux recevoir l'appel de Dieu. Tu peux recevoir un appel clair. Dieu peut te parler clairement sur ce que tu dois faire. Mais il est important de savoir quand le faire et comment le faire. Il ne suffit pas d'être au courant de la mission pour rentrer dans la mission. Mais il faut connaître le moment et il faut connaître, bien aimé, le modèle aussi. Voilà pourquoi Moïse, pour repartir sauver les enfants d'Israël, Dieu a dû, bien aimé, le transformer pendant 40 ans. Quand il a quitté l'Égypte, là où, bien aimé, vous voyez, Moïse avait tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Mais là, Moïse n'était pas prêt. Il a utilisé ses muscles, il a utilisé ses forces, bien aimé. Avec ses forces, combien, bien aimé, d'Égyptiens étaient là? Est-ce qu'avec sa force, il pouvait tuer tous ces Égyptiens-là? Non, il ne pouvait pas. Mais Moïse devait dépendre de Dieu. Mais comme Moïse n'avait pas appris la dépendance, il n'était pas brisé. Il fallait que Dieu le brise. Étienne a bien dit que cet homme-là était puissant en parole et en acte. Mais, bien aimé, il n'était pas prêt. Il était prêt selon lui, mais selon Dieu, Moïse n'était pas prêt. Il fallait que Dieu, dans le secret, dans l'anonymat, transforme cet homme. Et Moïse est passé par le brisement. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, finalement, à 80 ans, Dieu va lui dire d'aller sauver le peuple parce qu'il avait entendu ses cris. Mais que dit Moïse à Dieu? Oh Dieu, je ne suis pas prêt. Oh Dieu, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je ne sais pas parler. Oui. Dieu devait dépouiller Moïse de toutes ses paroles afin que Moïse soit capable de parler. Donc, qu'est-ce que Dieu fait dans le secret avant de nous envoyer en mission? Bien-aimés, nous devons passer par l'école de Dieu. Et c'est quoi l'école de Dieu? L'école de Dieu, c'est l'école du brisement. Dieu doit nous briser dans le secret avant de nous relâcher. Avant de faire de nous une bénédiction, Dieu bien-aimé nous appelle à lui afin de nous briser. Parce que bien-aimé, le brisement, c'est le travail que Dieu fait pour nous donner la forme qu'il faut. Vous voyez, le brisement, c'est un peu comme le travail du potier. Vous savez, le potier utilise l'argile. Nous sommes l'argile entre les mains de Dieu. Avant que l'argile soit utilisée, transformée, bien-aimée, en peau, bien-aimée dans le Seigneur, l'argile passe par un processus compliqué, un processus de malaxage, un processus bien-aimé d'épuration, un processus bien-aimé où on enlève les impuretés, on enlève les pierres qui sont dedans. Certainement, nous avons un cœur dur envers les autres. Nous avons bien-aimé un cœur dur, on ne veut pas pardonner. Dieu ne peut pas envoyer une personne comme ça sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord nous transformer. Et ce travail de transformation, par les difficultés quelquefois, par des humiliations, Dieu transforme nos cœurs. C'est très important. C'est un peu comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient bien aimer rentrer à Cana. Et pendant qu'ils passaient par le désert, Dieu dit que expressément, il a permis que ce peuple-là passe par le désert. Pourquoi ce peuple devait passer par le désert? Lisons un peu Deutéronome chapitre 8, versets 4 à 2, qui nous révèle la cause, ce qui a fait que Dieu passe, permette que les enfants d'Israël passent par le désert. Regardez, Deutéronome chapitre 8, le verset 4, pardon, 2 jusqu'à 4. Souviens-toi de tout le chemin que Dieu, l'Éternel ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut s'arrêter jusqu'au verset 3. Vous voyez, Dieu était sur le point de donner la terre promise aux enfants d'Israël. Mais Dieu devait bien aimer les former d'abord, en passant par le désert. Et le désert devait bien aimer les enseigner que l'homme ne vit pas seulement de pain. Un missionnaire doit apprendre que sa vie sur terre ne dépend pas seulement de la nourriture physique et du manger, de tout ce qui est naturel. Non. L'homme, un missionnaire doit apprendre à dépendre de Dieu et à savoir que sa vie sur terre ne doit pas se limiter seulement aux gains physiques. C'est là où l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois, le verset 19, que si c'est de cette vie seulement que nous croyons en Dieu, en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Un missionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'approbation des hommes. De plus en plus, les missionnaires que nous voyons aujourd'hui, c'est des hommes qui cherchent l'approbation des hommes. Lisez l'histoire de l'Église. Les missionnaires qui ont existé dans le passé, c'est des gens bien-aimés qui avaient sacrifié leur vie. Nombreux sont morts. Nombreux sont morts comme martyrs. Nombreux ont été tués lorsque ces gens-là annonçaient l'Évangile. Pourquoi? Parce que bien-aimés, ils ne cherchaient pas la gloire des hommes. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit être prêt. Et Dieu, dans le secret, il doit nous préparer. Donc, comme Moïse, Dieu l'avait préparé. Il a préparé par quoi? Par le brisement. Dieu l'a brisé. Parce que avant que Dieu t'envoie, tu dois être brisé. Si tu n'es pas brisé, tu dois te présenter toi-même. Mais si tu es brisé, tu vas dépendre de la force de Dieu et tu vas présenter Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre avait connu la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de quitter le monde pour que la mission soit attribuée, pour que les disciples continuent la mission qu'ils avaient à faire de répandre l'Évangile. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il est jour, nous devons travailler, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Lui, comme le soleil levant, il est venu bien aimer la journée. Mais bien aimé, la nuit, la terre est éclairée par la lune. » Vous vous rappelez quand Joseph avait eu cette vision, dans la vision, il voyait les étoiles, il voyait la lune et il voyait le soleil. Et lorsqu'il a raconté la vision à son père lui a détaillé la vision en disant, en fait, le soleil, c'est lui, Jacob, la lune, c'est sa mère, les étoiles que Jacob avait vues, dont Joseph avait vues dans sa vision, c'était ses frères. Donc, si le soleil, c'est l'homme, ça veut dire que la femme, c'est la lune. Or, Christ est venu au soleil, la femme de Christ qui est l'Église, c'est la lune. Or, nous sommes au temps du soir. La Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes au temps du soir. Si la terre est éclairée maintenant, c'est nous, l'Église, qui éclairons. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ceux qui sont la lumière du monde devaient être prêts avant de sortir. Voilà pourquoi. Sans qu'il n'ait reçu la lumière, ces gens ne pouvaient pas aller prêcher la parole. C'est vrai qu'avant, le Seigneur les avait envoyés. Mais quand le Seigneur les avait envoyés, lui, comme la lumière du monde, était là avec eux. Ils ont opéré des miracles. Ils ont opéré des signes et des prodiges. Ils ont prêché le royaume des cieux. Mais comme la lumière était en train de partir, bien aimé, les apôtres devaient attendre la lumière avant de sortir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus leur dit, « Vous restez à Jérusalem, vous êtes mes témoins, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Et quand la lumière est venue, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens pouvaient maintenant aller annoncer. Et nous voyons Pierre, rempli de force, rempli d'esprit, annoncer un message puissant, un message qui n'avait peut-être duré moins de 15 minutes, mais qui a converti en un seul instant 3000 personnes. Mais comment Dieu a préparé cet homme Pierre? Si vous reculez un peu, bien-aimés, Jésus va dire à Pierre, « Oh Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais le Seigneur Jésus n'a pas épargné ce criblage. Il a dit, « Cependant, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, ramène tes frères, édifie tes frères. » Comment Pierre a connu le criblage? Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui était trop sûr de lui. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a dit, « Voici, vous allez tous m'abandonner. » Et, mais mon Père est toujours avec moi. Pierre avait dit ceci, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. » Et la Bible dit, les autres disciples avaient dit la même chose. Pierre était sincère quand il avait dit ça. Mais Pierre ne savait pas que c'était le moi qui parlait. Alors Jésus va dire à Pierre, « Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras régné trois fois. » Pierre a dit, « Non, moi je ne pourrais pas faire ça. » Pourquoi? Pierre était trop sûr de lui, bien aimé. Un missionnaire ne doit pas être trop sûr de lui. Quelles que soient tes capacités intellectuelles, quelle que soit la façon dont Dieu t'utilise, tu dois toujours dépendre totalement de Dieu. Pierre dépendait de ses capacités. Pierre dépendait de sa force. Voilà pourquoi vous voyez, même quand on a arrêté Jésus, il a utilisé sa force pour couper l'oreille de Malchus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était trop sûr de lui. Mais étant trop sûr de lui, n'était pas encore prêt, bien-aimé, pour la mission. Il ne pouvait pas être prêt pour la mission parce qu'il était trop sûr de lui. Voilà pourquoi le Seigneur devait le briser. Et comment le Seigneur l'a brisé? En permettant qu'il puisse, bien-aimé, le régner. Oh, on a dit à Pierre, tu étais avec lui quand on a arrêté. J'ai dit, je ne le connais pas. Quelqu'un a dit à Pierre, rien que par ta façon de parler, montre que tu es en train de mentir. Tu étais avec cet homme. Pierre a régné Jésus. C'était pour lui une façon de le briser. Frère, quelquefois Dieu peut permettre que nous passions par des moments de faiblesse. Des moments où nous avons régné le Seigneur par notre style de vie. Par notre façon de faire. Mais bien aimé, seulement pour nous montrer que nous sommes encore faibles. En fait, c'est pour revenir à lui. Et Pierre avait pleuré amèrement. Mais ce qui est bien, c'est que Pierre était revenu au Seigneur. Et quand il est revenu au Seigneur, sa vie avait été transformée. Le brisement est très important. Dieu doit nous briser dans le secret. Et que Dieu fait dans le secret? Dieu transforme notre caractère. Que Dieu fait dans le secret? Dieu enlève notre sûreté sur nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu fait dans le secret? Dieu transforme, bien-aimé, notre être intérieur. Et dans le secret, Dieu nous apprend, bien-aimé, à être fort. Jacob avait été brisé dans le secret. Et c'est comme ça que bien-aimé était devenu bénédiction. Il changea son nom de Jacob à Israël. David aussi a connu le secret. Dans le secret, il pouvait tuer le lion. Dans le secret, il pouvait tuer l'ours. Voilà pourquoi, quand Dieu l'exposa devant Goliath, il n'a pas eu peur de Goliath. En effet, Dieu, dans le secret, doit nous emmener à affronter des défis compliqués, à surmonter, bien-aimés, l'adversité compliquée, hein, des adversités compliquées, afin que nous soyons capables de tenir dans la mission. Si dans le secret, nous ne sommes pas capables, alors, aux yeux des hommes, il sera difficile, bien-aimé, que nous fassions quelque chose. Ô Seigneur, c'est ça le service de Dieu. Dieu doit nous choisir. Nous voyons la même chose ici s'appliquer. Avant que Jésus ne donne le pain aux hommes, la Bible dit, lorsqu'il a pris le pain, il leva le pain vers le ciel. Ça, c'est le travail, bien-aimé, du choix, c'est-à-dire l'élection. Et lorsqu'il lève le pain vers le ciel, c'est comme emmener les disciples vers le ciel. Ensuite, lorsqu'il descend, il brise maintenant le pain, ensuite il est distribué. Nous sommes le corps de Christ. Si Jésus est le pain, nous sommes le pain que Jésus donne aux hommes, afin que, bien-aimés, ces hommes-là puissent, bien-aimés, revenir à Dieu. Mais bien-aimés, pour que Jésus-Christ nous utilise, nous devons être brisés. On va lire quelque chose dans Éphésiens. Dans Éphésiens, ici, la Bible nous montre le même principe. Regardez, Éphésiens chapitre 4. Juste avant de parler des cinq ministères, qu'est-ce qui est dit? Regardez, Éphésiens chapitre 4, je veux commencer à partir du verset 7 et je pourrais lire jusqu'au verset 14. pour comprendre ce que c'est un missionnaire et comprendre le but des cinq ministères. Parce qu'aujourd'hui, le but des cinq ministères a été erroné par un certain nombre de loups qui se sont furtivement glissés dans l'église et détruisent, bien aimé, le message de Jésus. Regardez. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 14. La Bible dit ceci. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez la même chose ici. Étant monté au ciel, il a pris des captifs, c'est-à-dire, il a pris des missionnaires, les esprits de missionnaires. Il a emmené ces gens en lui. Ensuite, il les a fait des dons, il a fait des dons aux hommes. Donc, un missionnaire, c'est un don que Dieu fait aux hommes, afin que les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi un missionnaire, c'est celui qui a connu Dieu dans le secret. C'est celui que Dieu a emmené au ciel. Et Dieu a communiqué sa pensée afin que ce dernier communique la pensée de Dieu sur la terre. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un dise qu'il est missionnaire venu de Dieu et descende sur terre pour dire aux hommes, Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous donner de l'or, Dieu va vous donner des voitures, Dieu va vous donner des mariages. Comprenez que ce n'est pas un missionnaire qui vient de Dieu. Il n'était pas dans le secret de Dieu. Il n'était pas dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il prêche la terre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le travail que Dieu fait dans le secret. Dans le secret, Dieu nous délivre des blessures intérieures, afin que, bien-aimés, nous puissions bien présenter l'Évangile. Dans le secret, Dieu nous enlève, Dieu change notre mentalité, Dieu change notre système de valeurs, Dieu nous libère de la puissance de la chair. Et bien-aimés, dans le secret aussi, Dieu nous délivre de la pression et de la domination des puissances des ténèbres. Un missionnaire, c'est celui que Dieu, bien-aimé, a délivré de la puissance des ténèbres et a transféré dans le royaume du Fils de son âme. Lisons un peu ça dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Donc, lorsque Dieu nous prend, il nous libère de la puissance des ténèbres. Il nous libère de la domination du siècle présent. Il nous libère, bien-aimés, de la manipulation de Satan et ses démons. Et il nous place en lui. Et lorsqu'il nous place en lui, il nous dote, bien-aimés, de ses capacités afin que nous soyons au-dessus de Satan et ses démons. Voilà pourquoi la Bible dit, « Ceux qui sont ressuscités avec lui, il les a ressuscités ensemble et il les a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Nous sommes assis avec lui. Un missionnaire est avec Christ. Et lorsqu'il parle au nom de Jésus, les démons doivent obéir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Christ qui est en lui. Et comme Christ est au-dessus de tout. Car la Bible dit dans 1 Jean 4, 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui rentre dans ce monde. Donc lorsque le missionnaire parle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Christ en lui qui parle. Donc lorsqu'il parle au nom de Jésus, les démons doivent fléchir. Mais sa vie doit être une vie de pureté. C'est très important. Donc lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous lave. Dieu nous lave des péchés Dieu transforme notre mentalité, il transforme notre être intérieur. Et bien aimé, Dieu nous prépare, bien aimé, Dieu nous brise afin que nous soyons flexibles. Parce que bien aimé, un missionnaire, s'il ne comprend pas que il a été sauvé par grâce, il peut aller commencer à prêcher la condamnation. Non, bien aimé, le missionnaire n'est pas là pour condamner les hommes. L'heure de la condamnation n'est pas encore arrivée. Mais il est là, bien aimé, pour apporter le message. Dieu va révéler à cet homme que tu es faible. Si tu es ce que tu es, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas par tes efforts. Et par conséquent, lorsqu'il va présenter l'évangile, ça sera bien aimé avec beaucoup de miséricorde. Et Dieu, bien aimé, dans le secret, il va mettre son fardeau dans le cœur du missionnaire. En effet, dans le secret, Dieu nous apprend à recevoir son cœur, à voir les hommes comme il les voit, à comprendre la situation des hommes comme Dieu lui-même les comprend, et bien aimé, et Dieu nous conduit à faire ce qu'il aurait fait s'il était sur terre à notre place. Alors, pour clôturer, nous allons voir ici ce que le missionnaire reçoit dans le secret. Prenons Ésaïe chapitre 50. Ici, il s'agit de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, là, la prophétie d'Ésaïe qui prophétisait sur la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 50. Nous allons ici déjà entamer pour voir l'attitude d'un missionnaire. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui doit aimer le secret, qui doit aimer écouter Dieu dans le secret. Et dans le secret, qu'est-ce que Dieu fait? Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit ici concernant le Seigneur Jésus. Dans Ésaïe chapitre 50, et nous allons lire le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Vous voyez, un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit être un homme qui aime le secret. Le Seigneur Jésus-Christ, comme le missionnaire parfait, étant sur terre, il se retirait souvent dans le lieu désert où il écoutait le Seigneur. Un missionnaire, c'est un intercesseur. Nous verrons ça un peu plus tard. C'est un intercesseur. Et l'intercession ne signifie pas venir présenter ses besoins à Dieu. Mais bien aimé, une bonne intercession commence par l'écoute de Dieu. Un missionnaire, c'est un homme qui a l'oreille ouverte. Il écoute Dieu. Il cherche à comprendre ce que Dieu veut. Il écoute la pensée. Il reçoit le cœur de Dieu afin de transmettre, bien aimé, le cœur de Dieu aux hommes. Parce que, bien aimé, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et effectivement, ses voix ne sont pas nos voix. Alors, nous avons vu la première partie. Que Dieu nous bénisse. Je sais que ce n'est pas exhaustif par rapport à ce que Dieu fait dans le secret. Il y a certainement beaucoup de choses qui restent. Nous avons présenté ça en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le site. Et nous allons, en répondant les questions, aller dans plus de détails. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'être des missionnaires puissants qui vont impacter ce monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.